Bonjour à tous et bienvenue dans InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Je vous présente dans chaque épisode des personnes inspirées et inspirantes qui ont pris le pouvoir de leur vie et qui nous partagent leurs meilleurs conseils pour y arriver à notre tour. Aujourd'hui, je reçois Hugo, plus connu sous le pseudonyme d'Hugo Décrypte, du nom éponyme de sa chaîne YouTube où il décrypte l'actualité pour la rendre accessible à tous. Hugo a seulement 20 ans et en est déjà à son troisième projet entrepreneurial. Il est bien la preuve qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer et que le principal, c'est de suivre sa passion. Hugo l'explique très bien dans cet épisode où il partage avec nous ce qui l'a amené à créer sa chaîne, ce qui le pousse à continuer chaque jour et les projets qu'il a en réserve pour l'avenir. J'aime beaucoup cet épisode avec Hugo où l'on dialogue de manière vraiment spontanée et où l'on s'échange nos réflexions sur différents sujets tels que l'entrepreneuriat, l'éducation, mais aussi le jugement et comment gérer le regard des autres. Si vous aimez écouter ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de podcast que vous préférez. Cela m'aide énormément. Merci beaucoup et bonne écoute à tous. Bon bah bonjour Hugo.
Salut.
Merci d'être présent dans InPower.
Ah, merci beaucoup.
Donc bon bah on va pas faire semblant, hein. Toi et moi on se connaît, on est dans la même promo à Sciences Po Paris. Ouais. Et bon, on a tous les deux pris des chemins un peu différents pour notre troisième année. On a
un petit peu
ceux qui ont boycotté l'université pour développer nos projets personnels.
Ouais.
Et donc toi, en fait, cette année, tu ne fais rien de moins qu'un tour du monde. Donc principalement pour faire des reportages politiques, mais aussi sociétaux, ouais. Que tu partages ensuite sur ta chaîne YouTube, donc Hugo Décrypte.
Exactement.
Parce qu'en fait, tu n'as pas commencé comme ça, tu n'as pas commencé par vouloir faire le tour du monde. Et d'ailleurs, tu n'as même pas commencé par YouTube. Et je trouve qu'on peut le signaler, parce que c'est assez rare pour les YouTubeurs aujourd'hui, en fait.
Ouais, c'est vrai.
Donc toi, tu as commencé par un blog, plutôt un site d'ailleurs, Radio Londres, et qui, non, n'est pas une radio, et n'est pas non plus situé à Londres.
Je reçois toujours des mails de gens qui me disent « Voilà, j'aimerais faire un stage à Londres, est-ce que vous prenez des stagiaires ?»
Dans votre radio.
Dans votre radio, à Londres, bah non.
Raté. Non, en fait, donc c'était un média d'actualité pour les jeunes, fait par les jeunes.
Exactement.
Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé à créer Radio Londres quand tu étais encore, je crois, qu'en seconde?
Ouais, effectivement, j'étais en troisième, fin de troisième, je passais le brevet, je crois. Donc j'avais 15 ans et c'est vrai que moi, la présidentielle m'avait beaucoup marqué, ça m'avait vraiment intéressé. Alors, intéressé comme ça nous intéresse à 14-15 ans, donc je commençais en tout cas à m'y intéresser. C'était la première fois que je m'intéressais à la politique, je commençais à suivre un peu les meetings, les trucs. Forcément, dans les détails, je connaissais pas tout, mais je commençais un peu à m'y intéresser. Et c'est vrai que du coup, c'est né à la suite de la présidentielle. J'ai envie de faire quelque chose en fait sur ce nouveau contenu, enfin ce nouveau domaine qui commençait à me plaire pas mal. Et même avant ça, en fait, j'avais un autre site de un peu la même chose, une sorte de média participatif, mais sur le sport, parce que c'était un peu mon truc jusqu'ici.
Ah ouais, attends, tu m'as jamais dit
voilà.
Ça.
Un truc qui s'appelait Place au sport, et il y avait là aussi des rédacteurs. Bon, on était beaucoup moins, enfin c'était pas du tout la même chose, mais on était quelques uns et on parlait comme ça de sport. Okay. Et du coup, comment c'est né? Ouais, ça c'est juste par une volonté de faire quelque chose qui me plaisait, et voilà. Moi, je sais que il y a aussi un truc, j'ai l'impression de famille, dans le sens où mon frère à peu près a le même âge, enfin alors là il a 3 ans de plus, mais quand il avait 15 ans lui aussi, il avait lancé un site d'e-commerce où il importait des gadgets de Chine et les revendait sur un site internet. Donc voilà, ouais, plus cher forcément. Et voilà, du coup non, c'est né un peu comme ça, et après enfin ça se construit au fur et à mesure, tu vois. C'est la chaîne YouTube, c'est né 3 ans après le média. Il y a eu cette au fil du temps réalisé que ça me plaisait, quoi.
Mais du coup, au début quand même, parce que ouais, j'imagine les personnes qui nous écoutent se disent « Putain, moi en troisième, déjà, si jamais je t'avais rentré seule, c'était un accomplissement.
Ouais. »
Est-ce que t'as pas trouvé ça trop difficile de te lancer, en fait, sans moyens, sans expérience, et sans même savoir du tout où ça allait te mener? Parce que je pense que c'est des barrières qu'on a tendance à se mettre.
En fait, j'ai eu la chance de pas avoir des parents qui m'ont dit... qui m'ont mis des barrières sur ce que j'allais faire, ou qui ont critiqué ou jugé ce que j'allais faire, en fait. Enfin, c'est-à-dire que forcément, quand t'as 15 ans, soit tu vas avoir des gens qui vont te dire, bah t'as 15 ans, donc enfin, en gros, qui vont un peu dénigrer ton truc, enfin, comment dire, qui vont dire, voilà, bah t'as 15 ans, voilà, qui vont juger. Enfin, du coup, t'as toujours cette peur un peu de lancer ça si tôt. Et moi, j'ai eu la chance, en gros, de pas avoir des parents ou même des proches qui ont un peu dénigré mon travail, ou qui ont, en gros, ils m'ont laissé le faire tout simplement, quoi. Ils m'ont laissé le faire, et ça s'est fait au fur et à mesure. Et enfin, le site que j'ai lancé en 2012. Honnêtement, il était pas non plus, il ressemblait pas à grand chose, quoi.
C'est au fur et à mesure que ça a grandi. Et ça t'a jamais empêché, enfin moi je sais que je travaille dessus, j'ai déjà fait des efforts, mais c'était vachement le cas avant,
ou si jamais c'était pas parfait, enfin, où vraiment il y avait un certain niveau, ouais. Tu vois, je pouvais même pas le faire parce que j'avais. Ouais. Tu vois, c'est même pas que j'avais honte vis-à-vis des autres, mais c'est juste que je me disais, ça vaut pas le coup. C'est,
mais le truc,
pas
c'est
bien.
Que pour moi, à l'époque, c'était génial. Enfin, tu vois ce que je veux dire? À l'époque, pour moi.
Ouais, en fait, c'est vrai que c'était peut-être tellement tôt.
C'est ça, à 15 ans, tes exigences à 15 ans sont pas énormes. Et je m'en souviens même, donc elles sont pas énormes sur le contenu et tout, et même du coup sur les retours que tu vas avoir. Et je m'en souviens que au lancement du site, vraiment le jour où j'avais lancé, il y avait eu un moment où il y a eu un pic d'audience. On avait atteint, genre, je crois, quasiment 100 personnes en même temps sur le site. Et à l'époque, j'avais. Enfin, c'était ouf, quoi. J'avais pété un câble. J'étais là, mais il y a 100 personnes, c'est énorme.
On va au McDo pour célébrer.
Et aujourd'hui, alors, forcément, sur la chaîne YouTube et tout, c'est, ça n'a rien à voir, c'est incomparable. Et du coup, ouais, c'est juste aussi que tes exigences, au fur et à mesure, elles évoluent, elles grandissent. Mais c'est très bien. C'est-à-dire que du coup, plus tu commences tôt, à mon avis, plus tu commences avec une certaine exigence.
Ouais,
après,
ouais,
t'as l'occasion
vrai.
De monter.
Tu fais des erreurs, on peut dire, tôt, ce qui permet d'avoir une certaine longueur d'avance après.
Totalement.
Et du coup, quels seraient tes meilleurs conseils pour bootstrapper? Donc, bootstrapper, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est vraiment faire le plus possible avec le moins de moyens.
Mais à mon avis, en fait, alors déjà, c'est de pas trop traîner, dans le sens ne pas se dire, justement, essayer de trouver le truc parfait, tu vois, c'est ce qu'on disait. À mon avis, on peut pas faire le truc parfait, surtout quand c'est la première fois, donc ça sert à rien d'essayer de faire vraiment le truc parfait, que ce soit un média, que ce soit un truc. Moi, ma chaîne YouTube que j'ai lancée après, enfin, je quand je regarde mes premières vidéos, enfin, je les regarde pas tellement, pour moi, je peux pas le regarder, quoi, c'est horrible. Et donc voilà, ça peut pas être parfait, et ça, il faut vraiment le garder en tête et se dire que vaut mieux lancer un truc qui n'est pas parfait que essayer de bosser des années sur un truc qu'on veut rendre parfait et qu'au final, il va jamais sortir.
Ouais.
Enfin, c'est super, super important.
Puis même, on apprend limite.
Exactement. C'est le truc, tu sais, de Build Magellan. Enfin, le truc, de toute façon, en créant, après, tu vas avoir des retours, donc tu vas l'améliorer.
Ouais.
Et c'est obligatoire. Et c'est pas forcément, c'est juste que c'est pas forcément évident parce que justement, il y a le regard de l'autre. Enfin, on a la peur du, putain, mais jamais le truc est pas parfait. Comment est-ce qu'on va être jugé et tout, quoi. Et c'est problématique parce que justement, on va progresser seulement en faisant ça.
En essayant.
Quoi.
Et
surtout, en fait, je pense qu'il faut relativiser le regard des autres. Enfin, je sais pas comment dire, mais on a tous des avis sur plein de choses. Mais au final, à la fin de la journée, on en a un peu rien à faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais,
moi, il y a des mecs à la télé que je déteste et que je trouve nul. Enfin,
mais
que je déteste, que je trouve nul, mais je m'en fous, c'est ça. Je m'en fous, quoi. Juste, si tu me demandes qu'est-ce que tu penses de lui, bon, peut-être que je dis, bon, je suis pas fan, tu vois, voilà. On s'en fout, tu vois. Donc, il faut aussi relativiser sur le regard des autres en soi. Chacun, en général, les gens sont beaucoup sur leur truc et sur leur projet, et du coup, ils ont une opinion parfois sur d'autres trucs, mais faut pas non plus dramatiser sur ce truc-là, quoi. Donc, c'est pas aussi important que ça, quoi.
Et qu'est-ce qui t'a permis de scaler, on va dire? Donc, ouais, de prendre de l'ampleur assez rapidement.
Alors, sur Radio Londres, honnêtement, ça a grandi lentement et ça n'a jamais non plus décollé. Enfin, voilà.
En comparaison aujourd'hui à ta chaîne YouTube.
En comparaison
avec
ma chaîne YouTube.
Moi, je me souviens quand même, quand on était en première à Sciences Po, les gens te connaissaient quand même par Radio Londres.
Oui, c'est vrai, parce que j'avais pas ma chaîne et tout.
Ouais.
C'est vrai. Mais c'était. Enfin. Pour moi, en l'occurrence, sur Radio Londres, ça a grandi doucement parce qu'il y a eu simplement la régularité. Il y a eu la régularité sur, ok, bon, on va toujours chercher des nouveaux rédacteurs, on va toujours avoir des articles tous les jours, on va bien les relayer, etc., etc. Mais ça n'a pas non plus décollé parce qu'il n'y a pas eu ce truc où, ça a augmenté de façon exponentielle,
on a commencé
à avoir, c'est resté une association avec juste une centaine de rédacteurs et ça n'a jamais non plus explosé. Mmh. Aujourd'hui, on est en train de bosser sur une suite pour Radio Londres avec d'autres choses. Sur Hugo Decrypt, c'est pas la même chose. Sur Hugo Decrypt, en l'occurrence, et c'est pour ça aussi que j'ai mis sur ces deux dernières années le paquet sur Hugo Decrypt, c'est que ça a grandi beaucoup plus vite et il y a eu tout un tas de raisons. L'une d'entre elles étant que sur YouTube, t'as la possibilité de faire des collaborations avec d'autres YouTubeurs ou alors d'être recommandé par d'autres YouTubeurs qui vont pouvoir parler de toi. Et moi, j'ai eu la chance notamment d'avoir un YouTuber qui avait 1 million d'abonnés et qui m'a dit je te propose de. Enfin, en fait. En intro de chacune de ses vidéos, il laisse un autre YouTuber présenter sa chaîne. Si jamais il trouve que sa chaîne est cool. Et j'ai eu la chance de passer du coup dans une de ses vidéos, ce qui a fait que ma chaîne a explosé du jour au lendemain et a gagné, je sais pas, dans les 50 000 abonnés en une semaine.
Plus. C'était qui?
C'était Doc7, le nom du YouTuber.
Ouais,
et il pouvait encore envoyer des...
C'est un Américain?
C'est un Français qui fait des vidéos sur de culture générale en gros.
Ouais.
Et ce truc là, alors on peut se dire c'est un truc du coup de privilégié parce qu'il y en a que quelques-uns qui l'ont, mais il faut aussi voir que en fait il y a sur YouTube, ça peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant de décoller. Mmh. Et moi, je connais plein de potes qui, alors que je connais pas depuis très longtemps, mais qui eux ont leur chaîne depuis, je sais pas, 2013, 2014, et qui commencent à décoller seulement maintenant parce que soit ils ont trouvé le bon format qui d'un coup a fait que la chaîne a décollé, soit ils ont eu une collaboration, un truc avec un YouTuber qui a fait que la chaîne a décollé. Et voilà, du coup, le truc le plus important, c'est vraiment la longévité. Enfin,
La consistance,
enfin, faire régulièrement. C'est,
la régularité.
Voilà, ouais. La régularité. Voilà.
Mais je trouve qu'avec YouTube, c'est très difficile parce que moi, pour être passée par là, en fait, ça demande tellement, en fait, je trouve, de travail. Mm. En tout cas, quand on est seul, à sortir en fait, la vidéo, que ce soit de la phase de construction de la vidéo,
Écriture, tournage,
voilà,
montage,
ça.
Et tout,
ouais. Voilà, je pense que les gens ne se rendent pas compte, parce qu'en plus, ça dure quoi, 5 minutes à l'écran.
Ouais.
Mais derrière, oui, vraiment, c'est ça, comme tu dis, écriture, tournage, montage, publication.
Ouais.
Donc en fait, moi, j'ai été face vraiment au choix, soit tu continues à te concentrer sur ton Instagram pour produire aussi le contenu de qualité là, et continuer à avoir une vraie interaction avec ta communauté. Ou alors tu passes sur YouTube, mais faire les deux au jour d'aujourd'hui, sans grande équipe, c'est compliqué.
Donc toi aussi,
t'as eu la bonne idée de t'entourer assez rapidement.
C'est clair. Ça c'était très important. Je vais en reparler juste après, mais juste sur la régularité. À mon avis, ça pour YouTube, ça veut dire deux choses. Déjà qu'il faut être sur un contenu qui nous plaît vraiment, parce que ça va être beaucoup de boulot pendant longtemps avant que ça commence à décoller souvent, et du coup il faut trouver vraiment un contenu qui te plaît, quoi. Si tu fais ça pour l'argent ou pour je sais pas quoi, fais autre chose, quoi. Ça sert à rien.
Vraiment,
trouve un contenu qui te plaît, et c'est super important. Et au-delà de ça, faut c'est ce que je disais aussi du coup sur Radio Londres tout à l'heure, quand j'étais content des 100 personnes sur le site. C'est la même chose, en fait. Faut pas se dire, bah, putain, quand je serai 1 million d'abonnés, je serai content, là, je serai bien et ce sera bon. Non, parce qu'on sait pas combien de temps ça peut prendre. Et faut vraiment aussi, garder en tête que, 1 million de personnes, c'est un putain de million de personnes. Enfin, j'étais en Estonie, là, il y a une semaine, et j'ai rencontré des influenceurs là-bas, des Instagrammeurs, qui avaient 40 000 abonnés, et qui, pour la population estonienne, c'était en gros les plus connus. Parce que c'est 1 million d'habitants, l'Estonie.
D'accord.
Donc 40 000 abonnés, c'était vraiment pas des superstars, mais j'étais allé en soirée avec eux à un concert, et toutes les 2 secondes, les gens l'arrêtaient pour des photos. Et ce que je veux dire juste par là, c'est qu'il faut aussi pas perdre de vue que 40 000 personnes, c'est 40 000 personnes, quoi. C'est un truc massif, quoi. Et donc, faut pas se dire, les gros youtubeurs, ils ont 1 million, donc tant que j'ai pas 1 million, ma chaîne, en gros, elle marche pas. Parce que même si t'as quelques milliers d'abonnés, c'est déjà immense, en fait. Tu parles à des gens, quoi, et tu parles à beaucoup de gens. Donc,
et ça, c'est tellement, je trouve, un débat assez. À double tranchant, avec une double facette, qui est d'un côté, faut le dire, faut pas faire ça pour les abonnés. De l'autre, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui continuent s'ils ont pas d'abonnés? Non, parce que en fait, je pense que c'est une forme de gratification, qui te pousse à continuer, qui montre qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que tu fais,
et puis il y a ce truc
qui peut même te permettre après d'en vivre ou d'en faire vraiment projet qui a une part importante dans ta vie. Donc je sais jamais trop quoi dire. Tu vois, quand je reçois des messages, comment tu fais pour marcher, comment t'as fait, j'aimerais tellement avoir autant d'abonnés. Moi, je maintiens quand même que c'est pas pour ça qu'il faut le faire, tu vois.
Ouais, c'est clair.
Parce que sinon, tu vas te perdre très vite, tu vas vouloir tester différents créneaux qui vont pas te correspondre. Mais de l'autre, c'est vrai que la personne qui me dit, moi, ça fait 2 ans que j'essaye de publier des photos chaque jour sur Instagram et que je vois rien qui se passe, c'est compliqué, tu vois, de savoir quoi leur dire.
Non, puis après, il faut quand même être réaliste sur le fait que. Enfin, c'est un peu cruel de le dire comme ça, mais ça marche pas forcément tout le temps, tu vois. Comme tout projet entrepreneurial de start-up ou quoi, la création de contenu sur Instagram, sur YouTube, sur ce que tu veux, c'est la même chose, quoi. Ça peut ne pas marcher et faut quand même garder en tête que sur YouTube, et ça d'ailleurs, c'est très bien parce que quand t'écoutes des interviews, de gros YouTubeurs, des Norman, des Cyprien, des Squeezie, ils ont souvent d'ailleurs l'honnêteté, et c'est très bien qu'ils le disent, de dire, mais pour quelques YouTubeurs, centaines de YouTubeurs qui marchent, il y en a des milliers qui ne marchent pas et qui bossent depuis des années et qui ne marchent pas. Donc, faut aussi relativiser sur tout ça. C'est pas un chemin facile vers le succès. C'est beaucoup de taf. Et comme tout projet entrepreneurial, ça marche pas forcément. Et je pense que il faut juste l'avoir en tête. Ça veut pas dire du coup ne le fais pas. Ça veut juste dire garde-le en tête et bosse en te disant que ça peut fonctionner, ça peut aussi ne pas fonctionner, mais c'est pas grave. C'est comme ça justement que tu vas apprendre et que tu vas progresser, quoi. Donc
c'est clair. Voilà. Ouais. Un autre conseil que je pense pourrait aider beaucoup de monde, c'est comment est-ce que tu arrives à gérer ta vie perso, ta vie étudiante et ta vie professionnelle. Parce que c'est une question que les gens me posent beaucoup et je pense qu'on n'a pas forcément les mêmes réponses au niveau organisation. Ouais. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir tes emphases là-dessus.
Ouais. Je suis clairement pas parfait dans l'organisation de mon temps, dans le sens où je suis pas du genre, en tout cas, je suis pas du genre à faire des plannings, à faire des trucs vachement bien carrés. Voilà. Donc, c'est pas trop moi. Par contre, moi, ce qui me semble intéressant, enfin, ce qui me semble important, c'est déjà juste de fixer en fait des objectifs, mais même pas forcément des objectifs en mode sur la chaîne, je dois faire ça, sur ce projet, je dois faire ça. Juste des objectifs en me disant, ok, là, il y a une nouvelle année qui vient. Est-ce que ma priorité, si j'avais été étudiant, c'est mes cours? Est-ce que ma priorité, c'est plus mon projet? Quelle balance est-ce que je trouve sur ces trucs-là? Et l'idée, enfin, moi, ce que j'ai essayé de faire, bah, l'année dernière, quand j'avais la présidentielle en même temps que mes cours et tout, c'est vraiment essayer de trouver ce juste milieu entre tes projets et entre tes cours, quoi. Moi, j'ai fait le choix qui était assez cash de me dire, bah, faut que je valide mon année, c'est quand même important, faut que je valide et que je finisse Sciences Po et tout, mais ma priorité cette année, c'est la présidentielle et tout, donc c'est ma chaîne et c'est tout ce que je vais faire à côté. Et du coup, dans mon emploi du temps, bah, clairement, c'était un peu déséquilibré parce que j'avais mis le paquet sur ma chaîne et c'était voulu, quoi. Après, sur la famille, sur les potes, sur tout ça, moi, c'est tout con, mais il faut juste se forcer à se... Enfin, ça peut pas être bizarre de dire comme ça, de se forcer, mais c'est le cas, en fait.
Ouais, c'est vrai. Quand t'es passionné par quelque chose, ça devient... Moi, je sais que, ouais, forcément, on va pas se mentir, on est amené à avoir de moins en moins de monde, à sortir de moins en moins. Mais c'est vrai que d'un autre côté, le pire, je pense, c'est pas contre eux. C'est-à-dire que j'apprécie toujours autant les personnes... Ouais. Mais tu peux plus les voir autant qu'avant.
Ouais, parce que t'es pris dedans, t'étais dans ce
truc. Exactement, mais je pense qu'il faut quand même faire gaffe. Parce que je pense quand même que, tu vois, si demain tout s'arrête, tes potes ils seront encore là, sauf si tu les as complètement basés.
Totalement. Et au-delà de ça, pendant que tu fais ton projet, c'est super important d'avoir des moments pour toi où en plus tu relâches la pression.
Ouais,
parce que
tu fais autre chose, ouais.
Parce que c'est des projets. Moi, c'est la même chose. Tu vois, t'as ce truc où c'est ton projet et surtout des trucs comme une chaîne YouTube, par exemple, où en gros, c'est ta tête, c'est ton nom et t'as cette pression-là de genre, s'il y a un truc qui marche pas ou s'il y a un truc qui se fait pas, c'est pas une entreprise ou un truc à côté. C'est toi, genre, c'est ta tête et ton nom. Voilà.
J'ai jamais pensé ça, moi. Tu me fous une bonne question, là.
Non, mais du coup, c'est juste genre, faut se donner du temps et faut se forcer à prendre du temps tous les jours pour voir ta famille, pour voir ta copine, ton copain, tes potes et c'est super important parce que sinon tu pètes un câble, sur le long terme, en tout cas c'est pas bon, quoi.
Donc, c'est pas viable du tout. Voilà. Et c'est quoi, je me demandais aussi ton avis sur les études supérieures aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est surfait, est-ce que tu penses que ça reste vraiment une voie royale?
En fait, à mon avis, il y a plusieurs éléments de réponse pour ça. Déjà, il y a certains domaines où les études supérieures, l'enseignement supérieur reste obligatoire. C'est tout con, mais si jamais tu veux faire du droit, si tu veux faire de la diplomatie ou des trucs, tu fais tes études, quoi. Tu vas pas chercher pas la merde.
T'as une formation nécessaire.
Ça. Exactement, tu fais ton truc, donc ça, de toute façon, tu le fais. Après, effectivement, il y a d'autres cas où tu peux être intéressé par des éléments où t'as peut-être l'impression que tu peux, en construisant tes projets à côté, s'ils fonctionnent, tu peux t'en sortir sans. À mon avis, ce que je conseillerais de faire, c'est de seulement quitter les cours quand vraiment tu ne peux plus continuer avec tes cours et que tes projets sont suffisamment stables et fonctionnent suffisamment bien. Moi, le coup de j'arrête les études pour me lancer dans un projet nouveau, moi, je conseille pas du tout, même. Parce que vraiment, t'as ce risque. Ton projet, il est nouveau, donc tu sais pas comment il va fonctionner. Et s'il foire, en général, tu peux pas retourner vers les études. Enfin, c'est trop galère. Donc vraiment, à mon avis, quitte ton université ou je sais pas ce que tu fais. Seulement si jamais vraiment t'as un projet qui fonctionne très très bien et qu'au-delà de ça, t'as plus les moyens de gérer les deux, effectivement. Et sinon, vraiment, ça me semble, c'est ce qu'on disait, tous les projets ne fonctionnent pas, tu vois, c'est pas, on peut pas non plus, et même si ça fonctionne aujourd'hui, ça fonctionnera pas forcément dans un an ou dans deux ans, donc faut garder en tête que ça reste important, et moi je t'avoue que oui, la question elle s'est posée, tu vois, pendant la présidentielle, j'avais tellement de taf, j'étais là, est-ce que je devrais pas faire au moins une année sabbatique, après peut-être faire une césure, et après arrêter, tu vois, je savais pas, et au final là, j'ai pas mal réfléchi, et c'est vrai que je me dis maintenant aujourd'hui, bon, il te reste deux ans, et même si j'étais au début, tu vois, il me reste cinq ans, enfin sur une vie, c'est pas non plus, tu vois, c'est tes 5 dernières années où tu peux faire tes études, tu les fais et après c'est bon quoi.
Ouais, surtout que c'est dingue, moi je sais pas, je parlais avec des personnes dernièrement qui me disaient que ça leur manquait vraiment
les quoi,
la période étudiante en fait.
Ouais,
les
ouais.
études, le fait d'apprendre
et c'est vrai que, voilà, ça ouais. Et moi j'ai des potes youtubeurs qui ont arrêté, soit ils ont commencé leurs études à l'université et ils ont arrêté, soit ils ont juste eu leur bac, ils sont jamais allés plus loin. Et quand tu, et c'est vrai que quand on en parle, tu vois, il y en a beaucoup qui sont là en mode, bah tu vois, j'aurais bien aimé avoir ce truc là tu vois, tu rates quelque chose quand même, tu rates ouais. ce truc, la vie étudiante, même les cours, enfin ça peut paraître con, mais enfin ça peut paraître chiant quand t'es en cours, mais quand t'y es pas, tu te dis bah c'est quand même quelque chose que tout le monde fait, qui est quand même une expérience particulière et que ouais. moi je ferai jamais quoi.
Ouais, et surtout je trouve c'est vachement aussi ce qu'il y a à côté, c'est sûrement aussi particulier à Sciences Po, mais toutes les personnes que tu rencontres, mmh. tout le vivier dans lequel t'évolues,
bien sûr.
C'est quelque chose qui, ouais, moi, c'est ça, qui pour ouais. moi est vraiment, enfin, je pense que ma vie vraiment ne sera pas du tout la même ouais. du fait de ces personnes que j'ai rencontrées, que si jamais ça n'avait pas été le cas. Donc c'est ouais, clair. Je pense vraiment l'environnement dans lequel t'évolues, quand t'es étudiant, il te façonne
bien
beaucoup
sûr.
Quoi.
Après, ça dépend bien sûr des écoles, des universités, enfin voilà. Mais t'as toujours, à mon avis, moi je enfin ouais, ce qui est important à l'université ou dans les écoles, c'est bien sûr c'est les cours, mais c'est aussi beaucoup les gens que tu vas rencontrer,
ouais.
et aussi la sorte d'émulation qu'on peut avoir entre les étudiants qui lancent des projets, qui lancent des trucs, et ça te pousse
ouais,
en fait.
Toi, t'as trouvé pas mal de gens qui bossent avec toi sur
l'équipe
à Sciences Po.
Ouais, bien
fait.
Sûr, bien sûr, je bosse avec pas mal de potes qui sont à Sciences Po et qui du coup, parce qu'eux ils disaient bah je suis chaud pour faire un projet,
ouais,
on s'est mis
ouais.
à bosser ensemble et voilà quoi, donc c'est assez intéressant comme ça quoi. C'est cool.
Donc maintenant, imagine que tu deviens ministre de l'Éducation nationale. Je suis présidente et je t'ai nommée. Quelles seraient les premières mesures que tu mettrais en place? Qu'est-ce que tu changerais? Tu vois, qu'est-ce que tu enlèverais? Dis-nous tout.
Je suis assez intéressé par ce qui est en train de se faire en ce moment par le gouvernement.
Jean-Michel.
Michel Blanquer, mais en gros sur l'idée de pas forcément avoir des filières et d'avoir plus quelque chose entre guillemets à la carte. Moi je sais que mon père est britannique, il avait un peu la même chose en Angleterre et j'ai vraiment l'impression que c'est une bonne chose en fait. Ça te permet de tester pas mal de choses, de voir ce qui te plaît, ce qui te plaît moins et de pas être enfermé dans une sorte de couloir
ouais, attends,
comme ça.
Tu peux nous préciser un peu pour peut-être ceux qui ont pas suivi ces
ouais.
mesures. Enfin en fait moi-même en Angleterre, là tu parles plutôt de collège-lycée.
Ouais, c'est collège-lycée.
Moi je savais pas que c'était à la carte parce que moi je connais un peu juste leur système plutôt post-bac et études supérieures où
ouais.
bon, par contre je trouve ça un peu dommage parce qu'ils doivent se spécialiser tout de suite et genre ils ont qu'une matière ouais. à choisir. Alors que paradoxalement, en fait, tu me dis qu'au lycée, ils ont vraiment le choix des matières
à alors, en tout cas, mon père, il doit avoir quasiment 50 ans. Et il y a 50 ans, c'était comme ça. Après, okay. il y a 40 ouais. ans, c'était comme ça. Moi, là, en gros, en tout cas, moi, le ministre de l'Éducation nationale veut mettre fin aux filières et avoir plus d'un truc. En gros, tu choisis des sortes de modules et tu fais une sorte de menu, mais t'as un module principal et après, tu complètes éventuellement avec d'autres cours. Et pour moi, ça va dans le bon sens, dans le sens où... ouais, il faut qu'on puisse tester pas mal de choses, il faut qu'on puisse s'enfermer dès la première entre, bah, du coup, tu vas être un littéraire, tu vas être un économiste, mais quelqu'un qui fait de l'éco ou un scientifique. Pour moi, c'est pas la bonne chose. Et un autre élément que j'aimerais bien voir davantage dans le système d'éducation nationale, c'est en gros des trucs où on a plus de travail en groupe, on est plus sur des projets très concrets. C'est le genre de choses qui se fait de plus en plus à l'université, j'ai l'impression. Mais tu vois, des trucs où... Enfin, des trucs très pratiques en fait.
Ah,
au-delà du cours où t'as le prof qui va parler et réciter des choses, c'est juste en fait essayer
ouais.
d'intégrer ou en tout cas donner envie aux gens d'entreprendre et de bosser sur des projets. Et voilà
c'est
quoi, du
ça.
Coup, ça me semble intéressant.
Et au-delà, enfin, parce que en fait, je pense pour moi, le terme pratique tel qu'on l'entendait quand on était au collège, c'était des TP où t'étais
ouais.
en blouse, laboratoire et tout.
Ouais.
Non, je pense en fait, ouais, juste des projets en fait concrets.
Ouais.
Moi, c'est ça que je veux, ouais, c'est je te rejoins vachement là-dessus. Je sais pas si c'est par manque de confiance aux élèves, mais vraiment jamais, c'est vrai, on nous a dit, faites comme si vous étiez à la tête d'un journal pendant une semaine, vous êtes rédacteur, vous pouvez engager des gens, vous pouvez choisir les thèmes.
Ouais.
Et c'est vrai que je pense que ça développerait des qualités qu'on n'enseigne pas encore
totalement.
Tout à l'école aujourd'hui.
C'est une mentalité qui est particulière
ouais.
et qui, à mon avis, on doit pouvoir enseigner ou transmettre via l'éducation nationale. Donc,
ouais.
Donc ouais, ce serait un truc que j'essaierais de développer. Après, je suis pas non plus...
T'es pas encore ministre.
C'est ça, je suis pas encore ministre et je connais pas non plus, tu vois, les détails de ça, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait développer, ou en tout cas une mentalité qu'il faudrait essayer d'apporter au sein du lycée. Même si, faut aussi garder en tête que tout le monde n'a pas forcément l'âme et envie d'être entrepreneur. Enfin, je sais pas comment dire ça,
oui,
mais
c'est sûr.
Faut pas non plus se dire, bah voilà, on va faire que des entrepreneurs et Startup Nation. Enfin, tu vois, c'est pas du tout ce que je dis, mais au moins, ouais, essayer de donner goût à ça et après chacun choisit comment.
Pour l'instant, on n'a même pas un seul aperçu, en fait. Tu vois, il y a une différence entre vouloir tous devenir comme ça et leur donner un peu un avant-goût de ce qui pourrait les attendre.
C'est clair, c'est clair. Ouais. Du coup,
Bah, t'essaieras d'interviewer le ministre. Tu l'as pas interviewé encore ?
Non, j'ai pas interviewé. Pourquoi pas ?
Bah, du coup, ouais, comme ça, ça nous fait un bon pont pour plus parler de ta chaîne où tu interviews, du coup. Enfin, en fait, c'était surtout le cas l'année dernière, mais tu vas pouvoir nous parler de l'évolution que ça a connue. Mais ça a commencé surtout en décryptage d'actualité et notamment donc, pendant la présidentielle en interview de politique français. Et ce qui m'interpelle avec ta chaîne, à part bien sûr la qualité du contenu, c'est l'audience de ta chaîne, qui est quand même relativement jeune. Je crois que c'est vraiment entre 14 et 20 ans, quoi.
Ouais, c'est ça. Il y a aussi de plus âgés, je pense que ça peut aller jusqu'à 25 ans, mais on a majorité de...
Enfin, ceux
de...
qui sont le plus engagés, on va dire.
En gros, ouais.
Et moi, c'est ce qui m'a interpellée, mais de manière positive. Mais vraiment, je me suis dit, c'est dingue qu'il y ait autant de gens qui le suivent, aussi jeunes, sur un sujet... auquel on n'associe pas du tout les jeunes, en fait. Et comment est-ce que toi, tu peux l'expliquer ?
En gros, à mon avis, c'est qu'il y avait un manque, un réel manque, en fait, pour cette génération-là et pour tous ces jeunes qui passent des heures sur YouTube, de contenu, d'information sur YouTube, en fait. C'est tout con. Et là, je parle vraiment d'un point de vue de plateforme et un peu de placement des différents médias sur ces plateformes-là. Ouais. Mais aujourd'hui, en fait, tous les médias qui se lancent, qui sont 100% réseaux sociaux et tout ce que tu veux, se vont principalement sur Facebook, et enfin tu vois, Brut et tous les autres. Et en fait, les jeunes auxquels moi je m'adressais, c'est pas des jeunes qui sont forcément sur Facebook, ou en tout cas, ils ont peut-être un compte, mais...
ils sont pas actifs.
Ils sont pas actifs dessus, alors que ils sont beaucoup plus sur YouTube, beaucoup plus sur Instagram, etc. Et du coup, c'est tout con. Enfin, il y a eu cette idée déjà qui a beaucoup joué, de se dire, on va aller sur ces réseaux sociaux-là, et du coup, forcément, l'audience est plus jeune. Enfin, c'est assez logique.
Ouais.
Voilà, c'est assez mécanique. Après, à mon avis, il y a eu plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. Déjà, le caractère assez personnifié de la façon dont l'info est transmise, de la même façon qu'on va pouvoir avoir des youtubeuses beauté ou des youtubeurs qui font de l'humour ou du jeu vidéo, on a du coup un youtubeur aussi qui devant sa caméra dans sa chambre parle d'actualité et essaie d'expliquer des sujets. Donc le fait aussi de
créer une proximité,
de créer une proximité, donc avec, tu vois, c'est Hugo Décrypte, j'aurais pu lancer une chaîne Radio Londres, mais c'était une chaîne Hugo Décrypte, et c'est aussi donc la proximité et le côté une sorte de mimétisme sur les formats, dans le sens où, tu vois, je commence à faire des formats originaux
du cadre traditionnel.
Mais il y a toujours ce format de décryptage où, en gros, je parle devant la caméra comme un youtubeur pourrait faire un podcast ou quoi. Et ça, du coup, à mon avis, je joue beaucoup là-dessus. Et après, je sais pas trop comment l'expliquer autrement. Je suis content parce que c'est l'audience que je visais, donc c'est cool. Mais à mon avis, déjà, ça explique une bonne partie du fait que l'audience est jeune. Et effectivement, c'est collégiens, lycéens, étudiants, quoi, qui sont.
Mais ça relève un point intéressant ce que tu dis, deux points. Un, tu parlais des médias 100% réseaux sociaux. Est-ce que tu penses aujourd'hui, toi, que tous les médias sont destinés plus ou moins à devenir 100% réseaux sociaux, ou est-ce que tu penses qu'il y a encore une place pour des médias web
Avec un site, tu veux dire c'est très dur de dire, en fait. Honnêtement, à mon avis, déjà, la chose la plus importante, c'est d'être présent sur... Alors, pas tous les réseaux sociaux. L'idée, c'est pas de faire une collection avec des badges. Ouais, je suis sur là-dessus, Pinterest, Instagram.
Ouais, moi, ça me fait rire, parce que vraiment, limite, quand tu vois les principales sur une carte, tu vois, Facebook, Insta, YouTube, tu te dis, OK, mais tu sais, parfois, ils précisent, Pinterest, Vine, alors que ça n'existe plus.
C'est tous les deux jours, de toute façon, il y a un nouveau réseau social, donc c'est un
vrai,
peu...
C'est
mais non, mais alors, par contre, ce qui me semble très important pour un média, c'est d'être... c'est d'être au moins sur je sais pas, trois plateformes, quoi. Pourquoi ? Parce qu'on a bien vu, je sais pas si t'as suivi avec Facebook ce qui s'est passé avec les modifications de l'algorithme.
Ouais.
Mais en fait,
pour moi, c'est pareil sur les trois. Enfin, moi, pour être sur Instagram,
mais du coup,
on a
si y en a un qui descend,
aussi.
C'est vrai. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que si jamais t'es pas sur un, au moins t'es sur plusieurs terrains, et si jamais il y en a un qui marche pas, tu peux toujours essayer de compenser sur l'autre. Après, un site internet, peut-être que justement, si jamais tous les réseaux sociaux commencent à un peu faire chier avec leurs algorithmes et du coup baisser la mise en avant de nos publications, peut-être que le retour sur les sites internet ou sur les applis il va être important. Mais en attendant, les réseaux sociaux restent aujourd'hui le principal moteur, tu vois, d'audience et de trafic pour tout un tas de choses. Et du coup, faut y être. Et du coup, faut être le plus diversifié, sans pour autant tous les faire, mais le plus diversifié sur, sur les réseaux sociaux, quoi. Donc, donc voilà, j'ai oublié la question, mais
La question c'était sur l'avenir des médias. Est-ce que c'est 100%?
Ouais, donc, en vrai,
toi, c'est plutôt Inch'Allah.
Ça, c'est un peu, j'en ai aucune idée, tu vois. Okay. Non, mais c'est juste qu'en vrai, on verra. Il faut être présent sur plusieurs réseaux sociaux. Et à mon avis, c'est pas impossible que si cette tendance seconde se poursuit, le retour des sites internet soit très important. Il y a 2 ans, tout le monde était là en mode. Il y a eu pas mal de sites qui ont misé que sur des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on verra, mais peut-être que d'ici à 1 an ou 2, la tendance sera plutôt vers l'inverse et vers le retour à...
Ouais, c'est vrai. Surtout Facebook, en fait, c'est vrai. Je voyais, en fait, c'est celui qui donne le plus de visibilité quand même, parce que moi, je le vois bien avec des pages comme Minute Buzz, tu vois, qui ont très rapidement 1 million d'abonnés, de likes. Et c'est vrai que le format court de la vidéo visuelle, et en fait, vraiment, j'ai l'impression que... Maintenant, le réseau social qui marchera le plus, c'est celui sur lequel on pourra passer le moins de temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les vidéos courtes Facebook de 30 secondes, ça reste, je pense, même plus regardé que des vidéos YouTube peut-être qui durent un quart d'heure.
Mais ça, pour moi, c'est...
Qui est plutôt sur une audience, on va dire, de niche, qui va vraiment sur YouTube tous les jours.
Mais ça, pour moi, c'est une dimension qui est très importante par rapport à ma chaîne. C'est l'idée, en gros, que je me dis qu'il ne faut pas... Ça paraît très, très bizarre dit comme ça, mais... je vais essayer de l'expliquer après. Il ne faut pas surestimer la volonté des gens, moi en l'occurrence dans le cadre de mon contenu, de s'informer. C'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas. Moi, je ne m'adresse pas à des gens qui font Sciences Po et qui. Enfin, au départ, il y avait beaucoup de ça, mais maintenant, c'est plus du tout ça. Et je m'adresse surtout à des gens qui ne s'intéressent pas de base à l'actualité. Alors, soit du coup, ils veulent commencer à s'y intéresser, soit ils veulent des sortes de débriefs rapides. Et du coup, il ne faut pas surestimer. Bah oui, effectivement, ces jeunes-là, ils ne veulent pas forcément se plonger dans des articles qui vont durer une demi-heure ou dans des documentaires d'une heure. Parce que c'est pas grave, c'est juste pas leur centre d'intérêt, ils ont d'autres trucs à côté. Et donc, ils n'ont pas envie de mettre autant de temps. Et du coup, à mon avis, c'est très important quand tu produis du contenu de réfléchir aussi au temps que, à ton avis, la personne à qui tu veux t'adresser voudra mettre sur ce contenu là quoi. Et donc oui, typiquement sur Instagram, je fais des débriefs de l'actualité qui se lisent en une minute, grand max, et certains diront mais c'est pas assez, 2 phrases par actu, ça fait soit c'est ça, soit c'est rien quoi. Donc à un moment donné, faut
faut qu'ils swipe, tu vois.
Exactement. Et limite ça peut commencer par ça, comme ça ils peuvent s'y intéresser et après ils pourront peut-être compléter avec d'autres choses, mais c'est soit ça, enfin tu vois, c'est
en fait, c'est vraiment le rendre accessible à tous en fait.
Exactement. Donc
En fait, t'es vraiment devenu un expert, on va dire, des millennials, tu vois, cette expression qu'on entend partout. Mais du coup, pour les personnes qui nous écoutent, il y a peut-être des personnes ou des professionnels qui cherchent à justement toucher cette cible. Est-ce que tu pourrais leur donner des conseils pour ceux qui souhaitent vraiment essayer d'atteindre cette audience?
En fait, à mon avis, déjà, il y a deux options. Alors après, ça dépend de si on parle d'une entreprise, d'une asso, d'un média qui veut se lancer ou quoi. Mais t'as déjà le choix qui est soit de créer ton propre contenu sur tes propres réseaux sociaux et d'essayer de faire en sorte qu'il touche des jeunes, soit bosser directement avec des influenceurs, avec des créateurs de contenu et toucher aussi cette audience-là, tu vois. C'est tout con, mais en vrai, si elle met un peu de budget et tout, ça peut être une solution beaucoup plus simple.
Ouais.
Et tu peux arriver à toucher des gens, quoi. Enfin, donc voilà, ça c'est quand même une dimension assez importante. Après, on pourrait dire plein de choses, mais moi, il y a déjà quand même un truc assez important, c'est que faut pas forcément... En fait, j'ai l'impression que dès que du contenu fait par des gens qui ne sont pas des millennials, comme on dit,
plus de 25 ans,
essayer de faire des trucs jeunes et un peu fun pour les jeunes. En fait, ça se casse la gueule parce que on voit directement que c'est fake. Tu vois, il y a un côté
naturel.
Pas du tout naturel. Et du coup, en fait, soit faut assumer le côté sérieux et du coup bien bosser sur le storytelling, sur des éléments comme ça qui en fait sont communs à toutes les générations et qui font que la vidéo va marcher. Soit du coup tu bosses avec des influenceurs, mais tu fais un truc vraiment sur un ton très jeune, etc. quoi. Enfin, encore une fois, ce que je veux dire, c'est juste qu'il faut pas, faut rester fidèle à ce qu'on est et à ce qu'on veut faire.
Je pense pas qu'il faut mettre en place des stratégies particulières pour toucher une certaine cible.
C'est juste qu'en fait, il faut pas forcer le trait sur le truc. On parle à des jeunes. Enfin, même moi, tu vois, mon contenu, il est sérieux. Là, j'ai quelques contenus un peu différents qui vont arriver dans les semaines à venir, mais mon contenu principal, c'est du contenu très sérieux. Ou mis à part les gifs qui apparaissent à l'écran, qui sont un petit peu humoristiques, ça reste très sérieux et pour autant, je parle à des jeunes, tu vois. Donc, il n'y a pas besoin de faire un truc forcément drôle ou quoi pour parler aux jeunes. Quoi.
Voilà. Et est-ce que ça... Parce que là, c'est un peu l'interprétation. Si jamais on s'adresse à des personnes, qui ont plus de 25 ans.
Ouais.
Mais donc, tu penses que pour les personnes qui font même partie de la tranche millennials et qui veulent toucher cette cible, ils n'ont pas... tu vois, est-ce que, par exemple, il faudrait qu'ils soient plus présents sur Snapchat? Est-ce qu'il faudrait peut-être qu'ils fassent plus de vidéos que de photos? Enfin, tu vois, c'est ce genre un peu juste de tips, on va dire, propres à notre génération, dont, en fait, tout le monde n'a pas conscience qu'ils aient ou non notre âge.
En fait, à mon avis, il faut déjà... Enfin, partir de deux choses. Partir de ce que toi tu veux exprimer, de ce que toi tu veux faire, voir ce qui se fait. Enfin, c'est tout con, mais c'est quand même super important de voir ce que font les autres et pas voir ce que font les autres pour du coup faire la même chose, parce que, enfin, sur un créneau, tu peux avoir plusieurs acteurs qui font la même chose et ça peut fonctionner pour plusieurs personnes, mais ça marche pas non plus à l'infini, tu vois. Il y a un moment donné, il faut aussi créer, si tu crées quelque chose de nouveau, tu vas pouvoir en général t'en sortir beaucoup plus facilement.
Ouais, c'est vrai.
Et du coup, c'est juste essayer de voir toi ce qui te plaît, voir ce qui existe et voir en fait un peu, bah, où est-ce qu'il y a un créneau qui manque en termes de format et en termes de contenu, quoi. Et non, après, essayer d'être présent sur pas mal de réseaux sociaux juste pour faire vivre un peu une communauté. Snapchat, moi j'ai l'impression que ça se casse la gueule et que tous les
influenceurs se... Moi j'ai l'impression aussi.
Ouais.
Et j'entends pourtant encore Snapchat a détrôné Facebook chez les 13-18 ans comme première plateforme.
Peut-être que Facebook se casse
sociale,
encore plus
vois.
La gueule que...
Ah ouais, bah alors là on est foutu nous aussi. Hein.
Ouais.
Mais vraiment, enfin, moi je n'utilise pas plus du tout Snapchat. Enfin, vraiment pour plein de raisons. Un, la batterie, ça te nique ta batterie, mais en deux secondes.
Ouais.
Deux, je trouve quand même que c'est très narcissique comme réseau social.
Ouais.
Et on pourrait croire que Instagram aussi, mais je trouve quand même que c'est différent parce que Instagram, t'as quand même la place pour la légende, tu peux porter un vrai message, alors que Snapchat c'est juste bah prends-toi en photo.
Ouais.
C'est un peu vraiment pour le coup, encore plus qu'Instagram, regarde ma vie, elle est trop cool, je vais essayer de choper un peu les meilleurs moments de ma journée, limite me mettre en scène, quoi.
En fait, je sais pas si ma Snapchat est
mort. J'ai même
pas
compris, moi, l'engouement, et qui apparemment, encore une fois, est toujours présent, en tout cas pour la génération encore en dessous de nous, je sais pas comment elle s'appelle, ZZ-.
En fait, genre, je sais pas si ma Snapchat est mort, mais je pense que juste, ils sont quasiment morts pour les influenceurs. Enfin, moi, je vois le nombre de potes youtubeurs que j'ai, ou même que j'ai pu voir sur internet, qui disent, enfin, c'est tout con, mais je sais pas si t'as vu Kylie Jenner, qui juste dans un tweet dit,
Ah oui! Mais en fait, je l'ai vu reposter par un compte humoristique que j'ai sur Insta, et elle mettait genre What is even Snapchat, lol.
Ouais, juste, je sais pas, elle disait qu'en gros ça a trop changé, qu'elle l'utilisait plus, enfin je sais plus la formulation exacte, mais voilà.
Alors que, elle a, tiens, 20 ans, maman comme nous.
Et du coup, non, c'est juste à mon avis pour les influenceurs et pour. Enfin, influenceurs, j'aime pas trop le mot, mais je suis obligé d'utiliser parce que c'est au moins on comprend.
C'est le mot,
Pour les créateurs de contenu et tout, c'est de moins en moins intéressant, surtout Instagram, tu combines les stories et les. Enfin,
c'est vrai.
C'est beaucoup plus intéressant.
Je me souviens parce que, quand même, moi, au début, quand Instagram a lancé les stories, alors moi, je suis quand même principalement sur Instagram, je disais, waouh, putain, les copieurs,
je reste sur Snapchat.
Que dalle, on a tenu un mois.
Genre. Ah, et puis, tu vois, je fais beaucoup plus d'audience maintenant sur mes stories d'Instagram parce que, genre, ça va beaucoup plus vite, quoi. Les gens viennent pour mon compte, c'est ce que je fais sur Instagram en post, et du coup, ils viennent
aussi
sur les stories.
Ils n'ont pas à t'ajouter en plus,
Donc,
Bon, maintenant j'ai une question assez pointue, mais t'inquiète.
Vas-y.
C'est comment réussir à être satisfait de ce que l'on fait, tout en étant assez insatisfait pour avoir envie d'en faire plus, et tout en étant heureux de cette insatisfaction. T'as compris
je crois que j'ai compris. comment répondre à cette question? C'est compliqué. À mon avis, en fait, on... c'est assez compliqué de ouf. C'est ce qu'on disait en fait tout à l'heure. En fait, ouais, effectivement, c'est super important de rester. C'est super dur comme question. Hey. Je suis
sûr que le concours d'entrée.
Non, mais ouais, c'est ça. En gros, surtout, il y a genre trois dimensions de ta question. Donc là, je commence par quelle partie.
Nous, un petit plan en trois parties.
Non, déjà sur le fait d'être content, d'être satisfait de ce qu'on fait. En tout cas, si on parle par exemple du point de vue de l'audience. C'est ce que je disais au début, c'est déjà se rendre compte de quand on est sur internet, on voit des chiffres avec des millions, des trucs, millions de vues, des millions d'abonnés, et on a tendance à s'imaginer que c'est pas la norme, mais qu'en gros le succès c'est ça. Et déjà la première phase, c'est juste de prendre le temps, de prendre du recul en fait par rapport aux chiffres qu'on a et par rapport aux retours qu'on a, et se dire mais enfin genre juste en fait la façon la plus simple de le voir, c'est de parler à tes grands-parents. Ou de parler juste à des gens qui sont pas du tout dans cet univers-là. Et moi, quand je dis à mes grands-parents, ou quand je dis à, je sais pas, à des gens qui regardent pas YouTube et tout, que j'ai 200 000 abonnés, Enfin, tu vois dans leurs yeux qu'ils sont là en mode t'as 200, enfin, ouais, ils comprennent bah ça, pas 200 000 personnes, genre comment ouais, c'est possible en fait. Et pour toi, tu vois, tu dis bah 200, si t'es sur YouTube, tu sais que 200 000 c'est pas tant que ça par rapport à YouTube, mais ça reste 200 000 personnes. Donc vraiment, ouais. Essaie de parler à des gens qui sont pas dans cet univers là pour un peu te rendre compte que bah.
Quand t'as l'impression que t'es un loser, voilà, tu vois, je sais pas
ça, genre, évidemment, tu veux faire plus et du coup, tu seras pas totalement satisfait, mais tu peux déjà être content de l'audience que t'as et de ces chiffres là parce que c'est quand même en général assez impressionnant quoi. Et du coup, à mon avis, c'est ça, genre, juste prendre du recul, en fait. Juste prendre du recul par rapport à ce qu'on fait.
Mais est-ce que tu le fais spontanément? Est-ce que tu te fais une routine, un rituel Après, c'est des trucs hyper américains.
Mais c'est super dur. Enfin,
moi, j'entendais des podcasts où, c'est pas une blague. Les mecs, ils se lèvent vraiment à telle heure pour faire méditation. Puis, ils marquent sur une feuille 5 choses pour lesquelles ils sont grateful. Et putain, moi, je me suis dit, vas-y, je vais le faire. Mais en fait, ça sonne trop faux. Genre, moi, maintenant, je sous-estime plus, depuis que je suis aux US, l'impact de notre culture sur nous et à quel point elle fait partie de nous, quoi. Donc, je sais pas faire ça non plus, je pense. Mais moi, en tout cas, je sais que j'ai vachement de mal. Après, je le vis plutôt bien parce que je suis pas malheureuse dans mon insatisfaction, mais je ne suis jamais satisfaite, quoi.
Ouais, mais en soi, tu vois, moi j'en parle et j'ai l'impression que du coup c'est les conseils que je peux donner, mais moi-même, tu vois, j'ai l'impression quand même que c'est de moins en moins, mais il y a toujours ce truc où forcément t'as passé un. Je sais pas, j'ai 10 000 abonnés, je fais putain, quand j'aurai 20 000, ce sera immense. Une fois que j'ai les 20 000, je fais putain, 50 000
grave.
Et 100 000. Et là, tu vois, 200 000, je fais putain, quand j'aurai les 500 000, enfin. Et t'as toujours ce truc où tu
un palier, en fait.
Mais ce qui en soit, à mon avis, ce truc-là, voilà, si jamais il est bien géré et que tu prends en même temps un recul nécessaire pour te dire, bon, c'est quand même cool ce que t'as là.
Faut pas te flageller non plus.
Voilà,
quoi.
Tu peux pas, voilà. Mais voilà, et puis c'est aussi compliqué parce que, mine de rien, ces chiffres-là sont, en tout cas, quand on parle de YouTube et de la création de contenu, sont le signe que ça progresse, tu vois. Donc, c'est aussi, quand tu vois un chiffre qui augmente, du coup, mon projet marche
bien. Ça parle,
bien, quoi. Ouais. Donc, c'est pas évident. Enfin, franchement, c'est pas évident du tout, quoi.
Ouais. Faut gérer au mieux.
Faut gérer au mieux, c'est ça.
Bon, on va arriver à des questions un peu plus chill, donc tu vas pouvoir respirer un peu. Est-ce qu'il y a un livre, une vidéo, une interview qui a changé ta vie ou qui t'a beaucoup marqué?
Il y a une vidéo, le genre de vidéo très américaine, très très très
non, mais
américaine.
Je critique, mais il y en a que j'aime
beaucoup.
Okay. J.K. Rowling, Harvard.
Alors, il y en a une. Alors attends, je vais essayer de la retrouver tout de suite. C'est d'un youtubeur américain qui fait des vidéos de. Ça se trouve d'ailleurs, tu la connais. Qui fait des vidéos un peu de motivation, mais en mode. En fait, il rappe quasiment le truc. Je sais pas comment expliquer ça. Il s'appelle Prince EA, donc Prince et EA.
Ouais.
Voilà. Et donc, du coup, le nom de la vidéo, je vais vous le dire tout de suite. Je la recherche actuellement. Voilà. C'est Everybody Dies, but not everybody lives.
Ah,
tout le monde meurt, mais tout le monde ne vit pas. Voilà, exactement. Et du coup, c'est une vidéo qui doit avoir pas mal de vues, j'imagine. Ouais, 6,5 millions de vues. Bon. Et c'est le genre de vidéo de motivation. Sauf que j'ai trouvé juste très bien écrite et je régulièrement en fait je retourne la voir parce qu'elle me donne ce coup de boost et elle me fout limite des frissons, tu vois, parce que je la trouve vraiment très très bien faite et il en a fait d'autres qui sont très très cool, donc à mon avis c'est celle là que du coup c'est en 5 minutes c'est fait, donc la motivation c'est pas un livre de 3 000 pages, c'est juste
tomes.
En 5 minutes tu l'as ton petit boost. Non, sinon un livre, honnêtement, en plus c'est que je suis pas du genre à lire énormément de trucs de comment dire, de motivation, de développement personnel.
Ouais, mais c'est pas forcément ces livres-là qui nous touchent le plus. Hein.
Enfin, ouais, mais c'est clair. Mais du coup, même, tu vois, là, je pense à rien de particulier qui me. Enfin,
bah, c'est déjà bien.
Forcément...
Hein.
Ouais. C'est déjà...
T'étais pas obligé de citer les trois.
C'est ça.
S'il y a 3 choses que tu aimerais faire avant de mourir, ce serait quoi?
Waouh. Putain, d'un point de vue professionnel ou juste. D'un point de vue
professionnel.
Non, tout.
Ah ouais, je vais pas te dire.
Oh mon dieu.
Avant de mourir, mais juste dans ta carrière de youtubeur.
Là, l'oral d'admission à Sciences Po, il est là. Hein. Moi, j'ai pas prévu.
Je vais postuler pour devenir jury.
C'est très compliqué, laisse-moi réfléchir. J'aimerais bien refaire un. Cette année, je suis un tour du monde. J'aimerais bien refaire un tour du monde un moment dans ma vie, mais sans. C'est vrai que cette année, en fait, je bosse beaucoup parce que j'ai un reportage tous les dimanches à produire, etc. J'aimerais bien faire un tour du monde où vraiment tu te. Enfin, j'ai l'impression que je vais jamais avoir la possibilité de le faire dans ma vie, sauf quand je serai à la retraite, ou si on a une retraite, enfin bref, dans très 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 longtemps. Mais j'aimerais bien avoir ce truc où en gros, vraiment, tu fais un tour du monde et
T'as que ça à faire.
Et t'as que ça à faire. Et vraiment, j'ai pas bossé en même temps et j'ai pas. Enfin, c'était déjà énorme et complètement. Enfin, une expérience absolument dingue de faire ce tour du monde cette année et c'est pas fini et c'est vraiment un truc de ouf. Mais c'est vrai que l'idée de pas avoir à bosser à côté, c'est un truc qui me ferait vraiment kiffer. Donc ça, c'est un. Alors, putain, est-ce que j'en ai trois? Les gens en général trouvent trois trucs ou
ah
c'est...
Bah c'est pour moi que je pose la question. J'aime bien faire des interviews personnalisées.
Il fera chaud. J'aimerais bien lancer un média. Alors tu me diras peut-être que YouTube, enfin ce que je fais aujourd'hui sur YouTube, on peut considérer ça comme un média. Mais vraiment construire un média où en gros t'as une rédaction où t'as déjà c'est pas que moi qui l'incarne, en tout cas ou alors je l'incarne même pas du tout.
Ouais.
Mais vraiment avoir une sorte de un média quoi tout simplement. Ça me ferait vraiment kiffer. Et c'est le genre de truc une sorte un peu des objectifs d'un point de vue professionnel qui me ferait kiffer. Il y a un troisième
tu peux dire un truc tout bête hein.
Mais non mais c'est juste en vrai c'est juste aussi d'essayer de trouver un équilibre en fait, enfin essayer de garder un, là j'ai l'impression honnêtement de plutôt bien l'avoir, mais de garder en fait tout le temps au fur et à mesure que mes projets vont progresser cet équilibre entre ce qu'on disait avant, la vie perso et la vie professionnelle, ce qui est pas évident quand du coup t'as plein d'ambitions et plein d'envie d'un point de vue professionnel, mais voilà, ouais, réussir à garder cet équilibre là à mon avis serait super super important quoi. Donc voilà,
c'est bien. T'as bien réussi, j'accepte.
C'est bon.
Ensuite, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné?
Laisse-moi réfléchir. Le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, à mon avis, c'est ce conseil-là que j'ai pas mal retenu et que je garde souvent en tête sur le regard des autres et sur le fait que, c'est ce qu'on disait au début, mais le fait que j'en parle, d'ailleurs montrer à mon avis que c'est un truc qui m'a pas mal marqué, sur le fait que faut relativiser à 200% le regard des autres et en fait ce que tu fais forcément va être observé, des gens vont avoir une opinion dessus et tout. Mais en fait, chacun est tellement aussi dans sa bulle, dans son truc, qu'en fait, l'opinion des autres. Alors, déjà, t'en as un peu rien à faire. Enfin, c'est-à-dire que, bon, tant que ça plaît à des gens et que voilà, ton truc, tu le construis, à la limite, c'est pas l'opinion de tout le monde. Tu peux pas plaire à n'importe qui, c'est un truc vrai et voilà, faut aussi le garder en tête. Et du coup, ouais, au-delà de ça, en fait, c'est l'avis des autres, c'est un truc qui est assez léger en fait. Tu vois, les gens, tout le monde a un avis sur tout.
Désacraliser
l'avis
des autres.
Ouais, c'est ça. Tout le monde a un avis sur tout et en même temps, on n'a pas de réel. Enfin, tu vois, il y a très peu de choses où t'es là en mode, bah putain, ça, ce truc, genre, je le déteste. Et tu vois, voilà, faut vraiment avoir fait de la merde pour que les gens te détestent à ce moment-là, quoi. Donc, faut aussi vraiment relativiser ça et voilà, se dire que juste à partir du moment où tu fais quelque chose, tu vas pas plaire à tout le monde et tant que tu fais pas de mal aux gens et que tu fais plaisir à des gens et que tu fais un truc qui plaît à des gens
et qui te fait plaisir toi
et que tu fais plaisir toi, fais-le quoi. Après tu t'en fous quoi. Et c'est vrai que c'est, je pense que ça m'a aussi pas mal marqué. Je sais plus qui m'avait dit ça, mais je pense qu'en vrai il y a beaucoup de gens qui me l'ont répété. Et je pense que c'est aussi dû au fait que moi quand j'avais, à mon avis, enfin avec le recul, quand j'ai lancé mes projets au début, il y avait aussi ce côté de c'est dur à expliquer, mais je pense aussi de besoin de reconnaissance, tu vois, comme on peut avoir un peu au collège ou au lycée, ou en gros, moi, clairement, j'étais pas le mec le plus populaire au collège ou au lycée, il y a toujours ce truc un peu de faire ses preuves, tu vois, de créer un truc et de besoin de reconnaissance. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai réalisé qu'en fait, on s'en fout, tu vois. De plus en plus, c'est devenu, enfin, là, ça a totalement remplacé ça, et depuis, c'est vraiment juste, si je fais un truc qui me plaît, et la vie des autres, en vrai, je m'en fous. Tu vois, encore une fois, tant que je fais pas du mal à des gens et tant que je fais un truc qui plaît à des gens, c'est cool quoi.
C'est le principal. Donc, du coup, quel serait le conseil que toi tu donnerais aux personnes qui nous écoutent prendre le pouvoir de leur vie? Ah, tu prends l'option de Joker.
Je prends l'option de Joker.
Faut que je change l'ordre des questions parce que quand tu donnes le meilleur conseil que tu as reçu, tu peux pas après venir avec un conseil encore meilleur ou alors tu te dis ça va être un truc de loser.
C'est ça, non, mais en vrai, c'est le conseil que moi je donne le plus possible avec celui qui est de
faire ce que t'aimes.
C'est ça. Et ça, c'est un autre truc en vrai que, enfin, nous, tu vois, on a la chance, on commence d'être dans des bonnes écoles, dans des grandes écoles, et il y a toujours ce risque quand t'es dans une bonne école. Et parfois aussi, moi, c'est pas trop le cas de mes parents, mais je sais que dans le cas de chez certaines personnes, c'est beaucoup le cas de parents qui vont te dire, tu vas faire ce cursus-là, enfin, tu vas faire ce truc-là, tu vois. Pas sans forcément dire, fais cette école, fais ce truc, mais juste en disant,
c'est la voie qu'il faut que tu fasses.
Un peu guidé, et du coup, toi, un peu par défaut, tu vas te retrouver à faire ce truc où, je sais pas, tu vas te retrouver... Enfin, il y a des gens qui kiffent peut-être faire ça, mais à faire du conseil ou à faire du truc. Et juste, tu vas rentrer dans un moule ou un truc que, au final, t'auras peut-être pas jamais vraiment voulu. Et tu vois, et moi, c'est un truc aussi qui me fait peur, tu vois. C'est me retrouver à 40 ans et réaliser que, enfin, 40 ans ou je sais pas quel âge, et réaliser que ce que j'ai fait, le parcours que j'ai fait, c'est pas vraiment ce que j'ai toujours voulu faire, tu vois. Et vraiment, du coup, à mon avis, ouais, suivre en fait ce qui te plaît et tu vois, enfin, typiquement, ma copine que tu connais, elle veut à fond, enfin, elle est à Sciences Po, mais elle veut à fond faire un truc dans le cinéma et dans des trucs de genre là. Et du coup, elle est pas dans ce truc où elle dit, bah, je vais plaquer les cours, je vais plaquer les trucs pour faire ce projet là. Mais je vais me donner les chances et les moyens d'essayer de le faire, quoi.
Et du coup, c'est ça. Je pense pas que ça, c'est un truc assez culturel, parce que je sais que ta copine, donc, elle est d'origine colombienne.
Ouais.
Et tu vois, même dans une école à Sciences Po, où quand même les gens sont très ouverts d'esprit, sont encouragés pour suivre leur projet, je trouve qu'on est quand même pas des masses à se dire, ma passion, c'est ça, je vais me donner les moyens, ou au moins, je vais essayer, quoi.
Parce qu'à mon avis, c'est pas simple, en fait. Encore une fois, il y a cette solution de facilité, surtout quand t'es dans une grande école, de dire, en vrai, oui, je peux finir, bien gagner ma vie, faire mon truc et m'en sortir. Mais en général, ça peut peut-être, du coup, revenir plus tard. Moi, j'en ai parlé à des gens qui bossent aujourd'hui dans des startups, qui sont assez classiques, et en fait, qui me disent, avec le recul, j'aurais bien kiffé le faire autrement ou faire un peu mon truc, et qui du coup essaie de le faire maintenant.
Ouais.
Sauf que quand t'es déjà dans la vie active et tout, c'est pas forcément aussi simple que quand t'es étudiant.
Ouais.
Voilà, donc vaut mieux le faire le plus tôt possible. C'est jamais trop tard, mais vaut mieux le faire le plus tôt possible, quoi. Donc voilà.
Ok, écoute, merci beaucoup pour votre ego d'être venu sur InPower.
Merci beaucoup.
Merci en fait d'inspirer, je pense, toutes les personnes qui nous écoutent et même les gens autour de toi à poursuivre leur passion. Où est-ce qu'on envoie les personnes qui souhaiteraient te suivre? Enfin bon, je pense qu'ils ont compris que sur YouTube, c'était un bon départ.
Sur YouTube, ça va être pas mal, non? Sur YouTube, principalement, Hugo Décrypte. Et puis après, sur Instagram et sur Messenger, par exemple, où vous pouvez recevoir des débriefs quotidiens de l'actualité. Et puis voilà, sur Instagram aussi, pour le tour du monde. Enfin,
super.
YouTube, voilà, comme
il est présent sur toutes les plateformes.
C'est ça, partout.
Bon, merci beaucoup à toi, Hugo.
Salut.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, c'est l'heure d'aller laisser un petit avis positif sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. Il suffit juste d'entrer le nom du podcast InPower dans la case recherche, et une fois que vous l'avez trouvé, cliquez sur avis pour laisser le vôtre. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre soutien et j'espère de tout cœur que le podcast vous aidera à trouver de l'inspiration. À très vite dans InPower.